Les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé, et, par conséquent, le retour dans le milieu d'où on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que nié. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre par tant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous vouliez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents? Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, c'est une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'ENS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses. Parents profs, parents chercheurs, parents journalistes, parents médecins, parents ingénieurs. Autrement dit, parents cadres, si on se fie à la catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures, on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges. Les transfuges de classe. Vous quittez un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits. L'ENS est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, ou de découverte ou de refuge? Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs ou encore de commerçants? Qui sont-elles? Qui sont les transfuges? Aujourd'hui, c'est Dorian qui va répondre à mes questions. Bonjour Dorian.
Bonjour, merci de me recevoir.
Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ENS, donc si tu es élève, étudiant ou auditeur, et ton niveau, donc si tu es en L3, pré-master, etc., s'il te plaît, et ta discipline?
Alors je suis normalien étudiant, pris sur dossier, en 2019, donc c'est-à-dire que je suis maintenant quasiment vieux de la vieille, en quatrième année, donc ce qui s'appelle le projet long de recherche, en géographie.
Et pour essayer de comprendre qui tu es socialement, j'ai quelques questions qui ont l'air anodines mais que j'aime bien poser. Où est-ce que tu as grandi?
Alors j'ai grandi à Anzin, donc qui est une commune de un peu plus de 5000 habitants, qui est située à côté de Béthune, qui était une commune de 24 000 habitants à peu près, qui est située dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France.
Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger, et si oui, combien de fois?
Alors oui. Oui, je suis allé plusieurs fois à l'étranger parce que mes parents sont fans de voyage. Ils mettent ça avant toute chose, en fait. Du coup, j'y suis allé, mais je ne saurais pas te dire combien de fois. Mais oui, on va dire que c'est ce genre d'expérience qui ne manque pas.
Est-ce que tu as déjà fait du ski?
Oui, j'en ai déjà fait.
Tu avais quel âge quand tu es allé au musée pour la première fois?
Je ne saurais vraiment pas dire. Il y a moyen que mes parents... lors d'un des voyages, mais emmené dans un musée, mais dans un côté très découverte du pays, quoi. Mais sinon, un musée vraiment, on va dire, beaux-arts, exposition artistique, je ne dirais pas avant la sixième.
Est-ce que tu as déjà sauté une classe, et si oui, combien?
Aucune.
Et c'était quoi ton livre préféré quand tu étais enfant?
Je suis passé par la saga Harry Potter, donc je ne sais pas si on peut parler de livre préféré en soi. Donc moi, je ne dirais pas que ça a été mon livre préféré. Mon livre préféré, ça a été en terminale, pas avant. Un bouquin qui m'avait été recommandé par mon professeur de philo, qui s'appelle Le Zéro et l'Infini, donc de Koestler, qui est incroyable et qui était vraiment au cœur des questions, préoccupations que je pouvais avoir à l'époque. Donc encore à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que c'est celui-là.
Bon, et maintenant que les questions faciles sont passées, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier, tes parents?
Alors, ma mère est cadre, elle a le statut de cadre, et mon père, lui, est agent de maîtrise, donc dans l'industrie. On dit comme ça tout de suite, on pourrait dire ça y est, mais en fait, il reproduit juste le système. Mais enfin, il faut remettre en perspective et on va dire dans une trajectoire que nos parents eux-mêmes ont pu avoir. Enfin, si je remonte ne serait-ce que d'une génération, enfin, si je remonte déjà de deux générations, enfin, je suis d'une famille de mineurs, enfin, c'est-à-dire des deux côtés, c'était la mine, donc les corons, les cités minières, comme on connaît dans Bienvenue chez les Ch'tis, bon, un peu exagéré, mais vous avez l'idée. Et au niveau de mes grands-parents, c'était femmes de ménage et ouvriers de l'industrie. Et mes parents ont été les premiers à avoir du coup un diplôme du supérieur, un BTS, donc avoir le bac et un diplôme du supérieur, un BTS, et ont commencé. Enfin, ma mère a commencé secrétaire juridique, après obtenu le statut de cadre dans son deuxième emploi, donc au bout de 10 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Enfin, j'exagère, une dizaine d'années peut-être. Mon père, lui, a monté les échelons petit à petit dans sa boîte. Donc, la logique un peu fordiste de on commence au bas de l'échelle, puis petit à petit, avec l'ancienneté, on grimpe. C'est que maintenant, en fait, il est chef d'équipe. On va dire que ma trajectoire a évolué en même temps que mes parents, en fait.
Et maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, je voulais tout simplement te demander comment tu vas là maintenant à l'ENS.
Alors, c'est peut-être pas poétiquement dit comme ça, mais je suis content de ne plus être à l'ENS personnellement. J'étais très content de repartir très content aussi d'être de retour maintenant chez moi en PLR, quoi, vu qu'on doit faire deux stages, j'en ai fait un à l'étranger, là j'en fais un dans ma région avec des approches qui sont associées à mes objets d'études, donc le bassin minier. Je suis content de ne plus y être.
Et je voulais revenir sur ce que tu as fait avant l'ENS. Donc, est-ce que tu as fait une prépa, une fac, dans quelle discipline, où ? Et d'une part, à quel point l'ENS, c'était ton but absolu ou pas ? Et d'autre part, à quel point est-ce que tu pensais que tu serais pris sur une échelle de 1 à 10 ?
Okay. Alors, j'ai fait une prépa littéraire. J'ai fait une prépa littéraire, en fait, plus ou moins par hasard. On va dire, d'un côté, non par hasard, parce que j'ai fait la démarche en terminale, en fait, de me demander ce que j'avais envie, enfin, où j'allais aller après, soit on sortait la bonne vieille baguette Sciences Po. Heureusement, j'ai une professeure de SES qui avait envoyé tous ses fils en prépa. Moi, je ne connaissais pas du tout l'existence, mes parents encore moins. Et c'est du coup en creusant ce qu'elle m'avait conseillé, parce qu'elle voyait que j'avais un niveau qui était plutôt bon, elle m'a dit voilà, j'ai emmené tous mes fils, je sais que c'est que des formations qui sont plutôt bonnes, puis après à ce qui paraît il y a l'ENS à la sortie, donc il y a plutôt une bonne école. Du coup j'ai commencé à jeter un œil là-dedans, je me suis dit tiens, ça pourrait me plaire, j'aimerais bien faire de l'histoire avant de tromper ma première mariée pour la géographie finalement. Mais voilà, donc ça s'est fait un peu, ça s'est fait un peu par hasard dans le sens où voilà, j'ai cherché, mais d'un autre côté, c'est le genre de filière qui m'est pas venue comme ça a priori, et c'est vraiment juste parce que j'avais cette professeure là qui m'a recommandé ceci que j'ai fini là. Et du coup, j'ai fait 3 ans de prépa littéraire à elle, à Notre-Dame de la Paix, donc qui est une petite prépa que même la grande prépa lilloise ne connaît pas. Donc grande prépa lilloise qui est Federbe, et qui est du coup une petite prépa où en gros en 20 ans d'histoire on a eu 6 admissibles et 3 personnes qui sont entrées à l'ENS, et dont un du coup sur dossier et non sur concours.
Et du coup, à quel point l'ENS était ton but absolu?
Alors l'ENS, j'ai jamais vraiment su ce que c'était, même en étant en prépa, c'est-à-dire que la prépa où j'étais, aucun professeur n'était issu de l'ENS. Il y en avait un qui avait, je crois, eu une sorte de profil d'auditeur libre, mais qui était en BL. Ce qui fait que nos professeurs ne savaient pas exactement ce que c'était, comment fonctionnait la scolarité, etc. Même parfois étaient relativement à côté de la plaque au niveau préparation du concours. Et du coup, c'était quand même un objectif parce qu'il y avait la culture prépa, donc c'est-à-dire on travaille dur pour l'ENS, sans même savoir ce que vraiment c'était. Donc on va dire, je me suis vraiment conformé à cette culture du concours pour tenter mes chances, parce que l'ENS, c'est une bonne école, à ce qui paraît, etc. En plus, t'es payé pour... donc au bout de 3 ans, j'étais parmi la petite poignée qui pouvait espérer quelque chose, avec un malentendu, ça pouvait passer, entre guillemets. Je saurais pas dire exactement sur combien j'évaluerais ça sur 10, mais... Ouais, 4 ou 5, enfin, je sais pas. Moi, dans ma prépa, qui n'est pas le recul nécessaire de me dire, voilà, c'est une petite prépa, ceci, cela, cela, j'irais peut-être 6, quelque chose comme ça. Mais avec le recul et en ayant toutes ces données-là maintenant en retard, 3-4 aurait été déjà pas mal, quoi.
L'ENS, c'est considéré comme une réussite sociale et intellectuelle pour beaucoup, pas forcément pour tous, mais pour beaucoup. Mais comme toute victoire ou tout succès, il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant. C'est quoi l'échec, qu'il soit scolaire ou non, qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus permis d'avancer ou de rebondir ?
Je dirais qu'il y en a deux. Un premier qui est unitaire, donc c'est un échec. Enfin, un échec, si on veut. C'est-à-dire qu'en arrivant à l'ONS, voilà, j'étais plein d'images qui étaient préfabriquées au sein de ma petite prépa, avec une certaine, voilà, certaine représentation de ce qu'est l'ENS, la formation, etc., de la géographie aussi, c'est pourquoi j'avais signé en entrant. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien du tout, ni à la scolarité, ni à la manière dont fonctionnait l'école, ni à ce qu'était en fait la discipline dans laquelle je m'étais engagé. Et du coup, j'ai passé un an à me demander, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est quoi ce bazar? En plus, je suis en pré-master, donc j'ai 12 heures de cours par semaine, face à 30 heures en prépa, bon, j'exagère un petit peu peut-être. Mais voilà, donc il y avait un gros moment de perdition, et il a fallu que je prenne un gros recul en fait, de l'ENS, que je passe un été à surveiller une piscine dans un camping en Normandie, pour réussir à retrouver la voie dans laquelle je voulais m'inscrire et comment inscrire l'ENS dans cette voie-là, quoi. Voilà, un premier échec. Et deuxième échec, c'est plus, ouais, on va dire, personnel, au niveau des diverses relations que j'ai pu tisser à l'ENS. Au final, ça a jamais vraiment... Enfin, il y a eu un même pattern qui a fait qu'à chaque fois, ça a déraillé. Et du coup, je dirais que c'est surtout ça, moi, qui me marque le plus de ma scolarité ENS, au niveau, en tout cas, échec.
Et parce que du coup, quand tu dis, voilà, cette forme de moments de perdition quand tu arrives à l'ONS et que tu découvres que bah, tu sais pas tout, y compris en géographie, que tu découvres un peu le fonctionnement de la scolarité, etc. Pourquoi tu définis ça comme un échec ? Enfin, est-ce que c'est le terme qui te correspond, ou est-ce que... Parce que le mot d'échec, c'est moi qui le propose. Est-ce que ça te va comme mot ?
Plus qu'échec, je parlerais peut-être de moment de crise, en fait. De qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi ? Un certain nombre de représentations qui ne sont pas actualisées dans les faits. Et oui, je parlerai plus de moments de... Ouais, je pense que beaucoup passent par là, et en discutant même un moment avec la personne qui était responsable des géographes, hein, des primo-entrants en géographie à l'ENS, qui disait, quand je l'avais confronté à cette situation-là, un ou deux ans après, il m'a dit oh, « oui, mais c'est normal, la première année est faite pour ça, quoi. C'est une année de transition, et quand je dis bah, « oui, mais pendant cette année-là, on prend des sacrées claques », enfin, j'étais vraiment marqué par le fait qu'il y ait un visage impassible de dire bah, voilà, c'est comme ça, c'est fait pour ça, on sait très bien que ça passe par là, et ben, deal with it, quoi. Donc oui, c'était un moment rude, quoi.
Mais justement, qu'est-ce qui te permet de prendre du recul, de rebondir, d'en faire une force ?
Être littéralement loin de l'ONS. La première année, c'est quand je suis allé du coup dans ce camping-là avec des gens qui ne savaient pas ce qu'était l'ONS. T'as pas besoin d'avoir je ne sais combien de, on va dire, de médailles sur ton costume pour être quelqu'un à respecter, à prendre en soi, à prendre au sérieux. Donc en fait, une forme de simplicité, de naturalité qui m'a beaucoup aidé pour rebondir et reprendre confiance à ce niveau-là. Et puis là, là sortir de l'ONS, passer 6 mois à Berlin, donc...
Et une fois à l'ENS, qu'est-ce qui t'a fait le plus ressentir que tu venais d'un milieu social différent ?
L'intégration. C'est-à-dire que je suis arrivé... Enfin, il y avait tous ces événements en fait, de début d'année. Moi, je viens d'une petite ville du bassin minier. J'ai fait, du coup, j'ai fait ma scolarité dans une prépa du coup, qui est privée, où j'étais du coup, face à ces modèles-là, dont j'ai essayé d'adopter certaines normes parce que je jugeais ça enviable comme genre de profil. Ce qui fait que voilà, je suis arrivé avec un petit polo et des chaussures bateau. Et la première remarque qu'on m'a faite, c'est « toi, t'es un Versaillais ». Et j'ai dit « mais déjà, c'est quoi un Versaillais ?» Parce que moi, je ne connais pas, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Quel délire entre les Versaillais et les Parisiens ? J'imagine qu'il y a une prépa privée là-bas, ils doivent être un peu style école de commerce, enfin bref. Donc je connaissais pas spécialement, et maintenant en fait le recul, j'ai presque envie de leur dire maintenant, mais viens avec moi un week-end, je t'emmène par chez moi, dans les cités de mes grands-parents et arrière-grands-parents, tu verras que non, on en est très loin quoi, de ces représentations-là, même si aujourd'hui ça peut donner l'impression que ça y est, tu t'es embourgeoisé ou quoi, c'est aussi une trajectoire avant tout, plus qu'un état de fait de privilégié, etc. Et aussi... Plus qu'au niveau purement social, également au niveau spatial, je suis géographe, donc voilà, quand je me rends compte que de ma prépa, je suis seul. C'est-à-dire que j'arrive à l'ENS, je suis tout seul. Je dois connaître des gens, rencontrer des gens, alors que la plupart des autres personnes que je rencontre, bah, ils connaissent déjà un tel parce qu'on était dans la même promo, on était dans la même spécialité, on a passé le bazar ensemble, etc. Et moi, j'étais tout seul. Donc, c'était aussi un moment un peu difficile à composer, quoi, à composer avec, avec cette chose-là.
Pour toi, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi et est-ce que ça te parle ?
Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome normalien. Je pense pas qu'il y ait besoin d'être issu d'un milieu social particulier pour vivre ce syndrome-là. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient issues de grandes prépas parisiennes qui avaient ce syndrome, mais en 10 fois pire, mais en bonne partie parce qu'il y avait, on pouvait s'inscrire dans certaines conceptions très, très critiques vis-à-vis de certains milieux sociaux dont elles étaient issues. Et donc forcément, il y a une forme de tension qui apparaît. Et je le retrouvais plus chez ces gens-là que par exemple moi-même. Enfin, je dis pas que je l'ai pas, je l'ai aussi en partie parce que je pense que tout normalien là, alors qu'il y avait une raison de pas l'avoir quand on sort de l'ENS et qu'on met son nez un peu ailleurs, on se rend compte ah ouais, en fait j'exagère beaucoup trop vis-à-vis de moi-même.
Et même si tu dis que tu ressens pas forcément autant le syndrome de l'imposteur que peuvent le ressentir d'autres gens qui sont à l'ENS. J'imagine que tu as quand même des moments de doute, de questionnement, etc. Comment tu luttes contre ces moments de doute ? Qu'est-ce qui te permet de prendre confiance en toi, dans tes capacités ?
Alors déjà, mes moments de doute, c'est des doutes en fait, qui sont surtout disciplinaires, épistémologiques. C'est-à-dire que personnellement, j'ai une pratique de la géographie qui est à l'ENS, ou même des sciences sociales en général qui est à l'ENS, est dissidente en fait, et minoritaire. Ce qui fait que j'ai dû en fait me rapprocher de réseaux ou de chercheurs qui sont extérieurs à l'ENS et qui sont ouvertement critiqués à l'ENS pour leurs approches. Ce qui fait que parfois on me met même sur la tête l'étiquette. Et puis ça se voit en fait dans les approches que je mobilise, dans les approches que je mobilise pour mes propres objets. Donc en fait les doutes ils sont là, c'est-à-dire qu'il y a une posture en fait combattante pour faire exister des approches qui sont exclues de manière localisée à l'ENS. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont de manière plus générale au sein de la discipline. Hein. Au contraire, il peut y avoir un aura de reconnaissance vis-à-vis de certains chercheurs qui sont des pontes, par exemple, en géographie, enfin qui sont reconnus comme des pontes. Mais à l'ENS, c'est une bataille, quoi. Et encore une fois, c'est en prenant du recul, en se retrouvant sur le terrain ou en se retrouvant en contact avec des approches plus proches des miennes, que je récupère cette confiance-là. Et aussi, bien sûr, comme je le disais avant, en contact avec des milieux totalement différents de la recherche, quoi. Enfin, pour moi, ce qui est une des choses les plus difficiles, en fait, c'est de, à chaque fois, se cogner, en fait, entre chaque monde socio-spatiaux. C'est-à-dire passer du petit monde associatif de l'ENS à rentrer chez soi dans le Nord-Pas-de-Calais, à finir à Berlin parce que j'ai un stage, j'ai un séjour de recherche là-bas, à revenir dans le bassin minier, retrouver des enquêtés avec qui maintenant je suis ami, avec qui je peux aller en repas de famille, etc. C'est des sas de décompression qui n'existent pas entre chacun de ces milieux et auxquels on se cogne forcément parce que d'un côté on peut très bien dire oui, Dorian c'est un facho, nanana. Alors que deux mois après, je me retrouve à bosser dans un camping où on me dit « Non mais Dorian, t'es un idéaliste, ce que tu dis, jamais ça existera, etc. » Et puis après, je me retrouve quelques mois après où on lance des insultes contre certaines minorités et ça paraît tout à fait normal de le faire et ça va de soi. Et c'est justement de ne pas rentrer dans ces logiques-là qui fait qu'on en est exclu, qu'on est bizarre, qu'on doit être pris avec un regard particulier. Donc en fait, c'est très difficile de jongler comme ça avec des mondes sociaux mais aussi spatiaux, qui sont comme ça divergents, qui se rencontrent jamais.
Et justement, par rapport à tout ce que tu viens de dire sur le fait de faire la navette entre les milieux sociaux, cette question de l'incompréhension, comment ta famille vit le fait que tu sois à l'ENS ? Est-ce que tes rapports avec ta famille ont changé ?
Alors déjà, il y a une incompréhension fondamentale au début. C'est-à-dire que mes parents ne savaient pas ce que c'était une prépa. Je me souviendrai toujours on avait eu un entretien avec le directeur de la prépa à l'époque, pour savoir si j'allais vraiment intégrer Notre-Dame de la Paix. Quand le directeur présentait la prépa, à un moment, il a dit, voilà, donc il y a des cols, ça fonctionne comme ça. Mon père fait la remarque, toute franche, hein. Ah bah tiens, Dorian, il n'a jamais été collé de sa vie. Et voilà, donc ça donne une parfaite image de l'écart qu'il y avait et qui s'est maintenu pendant mes 3 ans de prépa, où mes parents ne comprenaient pas très bien ce que c'était que ce bazar. Tout ça pour finir prof, alors que tu as fait 3 ans hyper exigeant, etc. Ou tu aurais pu, je sais pas, moi, aller en école de commerce, faire Sciences Po, j'en sais rien. Tu serais bien payé, tu aurais une bonne position, dans le privé, bien sûr, parce que le public, c'est des paresseux, hein, entre nous, enfin, en tout cas, d'après mes parents. Mais, donc, une incompréhension fondamentale de ça. Et c'est que, après, avec le recul, maintenant qu'ils se rendent compte, déjà, le fait que je sois entré à l'ENS et que voilà, la bonne vieille métaphore, enfin la bonne comparaison avec l'ENA fonctionne toujours. Maintenant, ils commencent à mieux comprendre où ça mène, mais en tout cas dans l'idée, dans l'idée de la trajectoire, dans ce que je fais au quotidien, dans ce à quoi je peux être confronté, il y a une incompréhension en fait. Après, il y a un soutien, hein, ça c'est indéniable.
Enfin, est-ce que tu pourrais me parler d'un modèle, d'une personne qui a été là pour toi, qui t'inspire et qui te donne envie de continuer à croire en tes objectifs et peut-être d'être toi-même un modèle pour d'autres un jour?
S'il fallait que je retienne un modèle, pour moi, ce serait le maire de Béthune ou de Saint-Omer, donc qui sont deux villes moyennes du Pas-de-Calais. Parce que pour moi, enfin, déjà, j'ai eu des relations plutôt en étant ado vis-à-vis de ces gens-là, que j'ai pu connaître via des engagements personnels, et qui pour moi, en fait, sont un peu cette sorte d'élite locale qui représente quelque chose d'attirant en fait pour l'habitant du bassin minier que je suis. Moi, ils ont une aura de respectabilité, une sorte d'art d'être, enfin d'art de vivre en fait, de manière d'être, de rapport aussi à la collectivité, au collectif, à l'engagement personnel, qui pour moi est en fait un peu un modèle. Donc c'est pas vraiment issu du monde de la recherche. Mais du coup, ça façonne pas mal, moi, la manière dont je conçois le rapport entre recherche et opérationnalité. Donc à sortir juste de « bonjour, je viens vous poser des questions et vous ne me reverrez plus jamais », mais de « bonjour, je viens vous poser des questions, je crée un lien avec vous parce que j'ai l'objectif de changer la situation de vulnérabilité, par exemple, dans laquelle vous pouvez vous retrouver ». Et du coup, avoir un peu ce profil-là, un peu de « ok, j'ai un pied dans la recherche, mais aussi un pied dans le politique ou le... » disons-nous l'opérationnel, le technique. Et pour moi, en fait, c'est un peu ces personnes-là qui m'attirent.
Et bah, merci beaucoup, Dorian, pour avoir répondu à mes questions.
Merci à toi.
Vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite par Marie Brunner et diffusée sur Transistor.